Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio BLV et bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Aujourd'hui, c'est Camille qui vous accueille avec Clément à la technique.
Bonjour.
Au sommaire de cette locale du mercredi 26 octobre, je vais recevoir François-Xavier et Elisabeth de la future épicerie d'à côté et Patrick qui nous parlera de prévention et de santé au travail et comme d'habitude, des infos et des brèves locales. Alors, l'été 2021, je m'installais aux abords du centre-ville, super contente de pouvoir faire mes petites courses de proximité dans ce petit magasin bio quand un jour, fin août 2021, François-Xavier, derrière sa caisse, me donne un petit papier sur lequel était notée une adresse mail. Il m'annonçait que le magasin allait fermer, mais que c'était le début d'une autre aventure. Salut François-Xavier et Elisabeth. Alors François-Xavier, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis ce petit bout de papier ?
Bonjour Camille, bonjour à vous tous. En fait, effectivement, ce petit bout de papier a amené, dès le début d'octobre, une quinzaine de personnes à se réunir dans le parc de la Martine, donc au bout de notre rue de Mulhouse, qui est en face de la vitrine, anciennement Nature et Santé, présentement l'épicerie d'à côté. Et on a commencé à travailler, on a été chercher des chaises chez un des bénévoles, et on s'est posé, on a travaillé 2 heures, on a discuté de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous avez mis en place suite à cette première réunion ?
Eh bien, on a mis en place de se rencontrer tous les vendredis assez rapidement, donc systématiquement en fin de journée, pour travailler le sujet d'une reprise par les clients, en tant que consommateurs, de leur épicerie historique, puisqu'elle avait, en fin d'année de cette année-là, 50 ans.
Et alors, après 50 ans, est-ce que, justement, vous avez eu du soutien de la part des résidents qui vivent à côté, qui font leurs courses ? Est-ce que, tu me disais qu'il y avait une quatorzaine de bénévoles, 14-15, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le projet de près ou de loin ?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens. Elisabeth, tu peux en parler, si tu veux. Il y a effectivement une... Vas-y.
Oui, alors bonjour Elisabeth. Il y a une centaine de familles qui suivent le projet depuis le début, avec lesquelles on communique depuis le début de la création du collectif. Des familles qui suivent et puis des personnes, des habitants plus ou moins proches de la boutique qui sont vraiment investis de manière très active dans la construction du projet. Il y a différents types de soutien. Il y a soutien moral, soutien en termes de temps, soutien financier, des personnes qui nous ont soutenus financièrement aussi. Et puis, soutien technique, des personnes qui ont mis leurs compétences au service du projet et qui a permis de faire qu'aujourd'hui la boutique est prête.
Et alors du coup, tu me dis que les personnes ont mis à profit leurs compétences pour créer cette nouvelle épicerie. Comment vous êtes organisée ? Est-ce qu'il y a eu des commissions ? Est-ce que vous avez fait... vous avez une organisation horizontale ? Est-ce qu'il y a un leader ?
Non, il n'y a surtout pas de leader. On est organisé en commission, effectivement. Il y a une commission pour l'approvisionnement, il y a une commission pour les travaux, pour les finances, pour la communication, l'informatique. Chaque commission fonctionne toute la semaine, travaille. Et le vendredi soir, on se réunit en plénière où les décisions se prennent à ce moment-là. En collégialité, horizontalement, on essaye de rechercher le plus possible le consensus. Voilà, pour l'instant, ça fonctionne. Ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Mais voilà notre fonctionnement aujourd'hui et on est sous le statut associatif.
Alors, François-Xavier, tu me disais aussi que l'association, alors en fait, c'est pas que l'épicerie. C'est plus que tenir un commerce. Et quel est le message, en fait, d'ouvrir une épicerie avec des produits bio, etc. D'ailleurs, vous pourriez peut-être nous parler un petit peu de ce qu'il y aura, mais aussi aussi du message que vous souhaitez faire passer à travers les produits qui seront en rayon.
Oui, c'est effectivement le on va dire le cœur, l'ADN de notre boutique, donc l'épicerie d'à côté, qui est de passer le message d'une action possible de chacun pour cultiver en quelque sorte notre souveraineté alimentaire, qui ne sont pas que des mots, puisque ces gens vont permettre à une épicerie de proximité qui a 50 ans de rouvrir avec un esprit, je dirais, très actuel, un peu, entre guillemets, pour faire court, post-pétrole, c'est-à-dire en faire une épicerie où l'approvisionnement sera le plus proche du lieu de vente, en quelque sorte, et le plus proche de celui qui a travaillé au départ, c'est-à-dire le paysan, la paysanne, le transformateur, qui, lui, sera l'acteur qui sera le mieux rémunéré dans ce schéma économique du fait qu'il n'y aura que très peu, voire pas, d'intermédiaires. Et l'idée, c'est qu'ainsi, le consommateur voit son porte-monnaie financer un développement de proximité autour de Valence, dans la Drôme et Ardèche, bio, de qualité même souvent de métier, Nature et Progrès, donc on pousse en la qualité bio au-delà du bio traditionnel, on va dire, et au niveau de l'approvisionnement, un maximum de nos produits, petit à petit, viendront de très très près. Voilà, c'est ça l'idée.
Et alors, quand tu évoques donc une ère post-pétrole, donc c'est une ère, j'imagine, avec des vélos.
Oui, comme à Valence, on a la chance déjà de voir des micro-entreprises comme Rovalter pour le compostage, les déchets verts, comme notre ami qui transporte des personnes sur son triporteur. Effectivement, nous allons pouvoir contribuer avec eux à la possibilité d'acheter des produits qui auront une empreinte, qu'on appelle ça comme ça, une empreinte carbone très très faible. Voilà. Fini le pot de yaourt qui fait 5000 km.
Et au niveau de l'organisation, alors est-ce que ça va être des bénévoles qui vont tourner, ou alors je sais qu'il y aura donc Elisabeth qui sera salariée et qu'il y aura une deuxième salariée, il me semble. Comment vous allez vous organiser? En fait, le patron, c'est qui? C'est l'association.
Oui, donc moi, je vais être salariée effectivement à mi-temps avec Marie-Stéphanie qui sera salariée à temps plein. L'association, c'est notre employeur. Et puis, on souhaite ouvrir le plus largement possible avec des horaires d'ouverture suffisamment amples. Donc, les salariés ne pourront pas être là tout le temps. Et on va tourner avec une équipe de bénévoles. Dans la boutique, on va mettre un planning où les bénévoles pourront s'inscrire, un planning où il y a nécessité de bénévoles, et chacun pourra s'inscrire. Ce n'est pas forcément un engagement sur la durée, ça peut être ponctuel, ça peut être aussi un engagement sur la durée. Tous les mercredis, je viens travailler 2 heures à l'épicerie d'à côté. Voilà, le système devrait être assez souple, sans contrainte particulière. Voilà, et les bénévoles pourront être à la fois à la caisse, donner un coup de main quand une palette arrive pour mettre en rayon, ranger. Voilà, il y aura différentes tâches que les salariés expliqueront, formeront au fur et à mesure les bénévoles qui viendront. Voilà.
Et alors, on aura aussi la chance de voir peut-être François-Xavier dans le magasin prochainement. Et je voulais te poser une question, François-Xavier. Donc toi, tu étais salarié donc, de l'ancien magasin. Et tu aurais pu voguer de tes propres ailes et partir et voilà, travailler ailleurs, etc. Et alors, pourquoi tu as choisi vraiment de t'investir bénévolement, de ne pas vouloir quitter ces murs, ce lieu?
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est, je dirais, ma sincère fidélité envers mes clientes et clients depuis 20 ans, que j'adore, je vous le dis, je vous aime beaucoup et vous m'avez beaucoup donné. Et donc, du coup, par rapport à ça, je ne pouvais pas accepter la fatalité que parce qu'on a été racheté et que notre grand patron ne voulait plus de cette petite épicerie, dire, on ne fait rien. Non, je suis souverain et donc j'ai émis l'idée de impossible. dès ce possible. Et ça a matché avec voilà, plein de gens. Et du coup, on a concrétisé notre rêve qui était de... Non, ça fait 50 ans que Nature et Santé était là, au 46 rue des Alpes. Non, c'est possible. On va le prouver et on va continuer ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. On a continué ensemble. Elle s'appelle l'épicerie d'à côté. Et elle est pour vous, clientes et clients du quartier des Alpes et des alentours. Venez nous revoir d'ici quelques semaines et dès maintenant, puisqu'on est ouvert socialement, c'est-à-dire qu'on est ouvert à tout le monde pour boire un café, pour discuter, pour vous parler de notre fonctionnement avec les bénévoles, pour mettre en place peut-être votre plage horaire, pour discuter de tout. Et d'ici quelques petites semaines, l'idée principale qui est votre épicerie de proximité, elle sera là et vous pourrez réacheter du pain et me partager vos beaux sourires.
Alors du coup, ce souhait de faire vivre la vie locale, le fait de mettre en avant la solidarité, c'est quelque chose, je crois, que vous avez retrouvé aussi du côté de la communauté des Ursulines.
Oui, exactement. Dès le départ, au mois d'octobre, quand les jours se raccourcissaient, tout de suite on s'est dit mais où est-ce qu'on va se réunir ? Et là, j'ai demandé à mes clientes et amies de la communauté des Ursulines rue des Mulhouse. Et évidemment, elles m'ont dit mais il n'y a pas de souci, on va demander à l'évêché et on va voir si c'est possible. Et depuis, ben, on a passé des centaines et des centaines d'heures de réunion dans leurs locaux qu'elles nous ont prêtés gracieusement. Et c'est formidable. Et cette solidarité-là est vraiment à l'image de notre volonté à l'épicerie d'à côté de créer d'autres solidarités dans d'autres aspects, dans d'autres domaines, que ce soit dans aussi bien, on va dire, écrivain public, pourquoi pas, aussi bien soutien aux plus faibles. L'imaginaire de chacun est le bienvenu pour donner naissance à de nouvelles solidarités. C'est vraiment le message qu'on souhaiterait faire passer. Cultivons nos solidarités, cultivons le lien, et l'épicerie d'à côté, elle est pour ça, à votre service.
Alors, pour cultiver le lien, moi j'ai vu, je passe devant tous les jours et je vois que les meubles se montent progressivement. Elisabeth, tu sais à peu près quand est-ce que l'épicerie compte ouvrir ?
La date n'est pas fixée, mais ça devrait être mi-novembre. Là, on est en train de terminer l'approvisionnement. Le local est prêt. C'est vrai qu'il est quasiment prêt. Les étagères sont montées. Il est tout beau. Maintenant, il n'y a rien sur les étagères. Donc, on termine l'approvisionnement. On va passer les commandes prochainement. Et puis, c'est quand même environ 2000 produits qu'on va devoir installer, qui vont nous être livrés. Et je pense que mi-novembre, tout devrait être en place.
Où est-ce qu'on peut suivre un petit peu l'actualité de l'épicerie ?
On peut venir à la boutique parce qu'elle est ouverte. Il y a régulièrement quelqu'un. On peut venir discuter. On peut venir s'inscrire aussi en tant que bénévole dès maintenant.
Est-ce qu'il va y avoir une soirée d'ouverture ?
Oui, bien sûr.
Une pendaison de crémaillère ?
Oui, bien sûr. La date n'est pas fixée, mais il y aura une belle inauguration. Et puis peut-être donner le numéro de téléphone de l'épicerie, on peut appeler si on veut plus de renseignements, si on veut s'inscrire comme bénévole, si on veut s'investir d'une manière ou d'une autre. Je le donne, c'est le 04 75 63 03 75.
Ok, super, merci beaucoup pour toutes les infos. Alors moi perso, j'ai vraiment hâte de faire mes courses là-bas et voilà, de faire la fête avec vous pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler à l'intérieur et voir un peu ce que je pourrais acheter. Merci beaucoup François-Xavier et Elisabeth d'avoir répondu à l'invitation. Et puis, longue vie à l'épicerie d'à côté.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à BLV et à toute son équipe. Merci beaucoup.
À bientôt.
Alors, on poursuit un petit peu sur les infos du moment. Et si les enfants se glissaient dans la peau du chimiste, les Clévaux, cité des savoirs située à Étoile-sur-Rhône, proposent de réfléchir, de se questionner et surtout de s'amuser autour du thème du savon et de ses propriétés antimicrobiennes. Pour remonter la grande histoire du savon grâce à un quiz historique et pour connaître la recette infaillible du savon et de ses bulles, c'est demain, jeudi 27 octobre, pour les enfants de 8 à 12 ans, en duo. Sachez qu'il y a aussi la possibilité d'être en trio avec un adulte. Et pour plus d'infos, c'est sur le site des Clévaux. Ensuite, à l'occasion de la troisième édition du tournoi BLV e-sport, la ville de Bourg-lès-Valence a décidé d'organiser du 24 au 30 octobre la semaine du jeu vidéo. Donc demain, place au rétro gaming à partir de 18h au Hub e-sport Valence, au 40 rue Berthelot. Alors, ce sera l'occasion de découvrir les anciennes consoles de jeux. Mais surtout, c'est le meilleur moyen de retrouver les jeux vidéo de son enfance. Donc c'est un bon avant-goût avant les festivités de ce week-end, entre tournois, brocantes, geeks et présentation des meilleurs costumes de cosplay. Donc pour plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur le site de la ville de Bourg-lès-Valence. Salut Patrick.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de prévention et de santé au travail.
Tout à fait. Alors déjà, je commencerai parce que pour moi, c'est une toute première, une chronique qui démarre. Donc je précise d'où je viens. Donc c'est un service de santé au travail, donc il en existe un petit peu partout, à Valence, Bourg-lès-Valence, à l'Ermitage, etc., privé ou public d'ailleurs. Et pendant longtemps, les gens, quand on parle de santé au travail, on pense d'abord qu'aux médecins du travail. Or maintenant, il n'y a pas qu'eux qui sont compétents sur ces questions-là. De plus en plus, il y a déjà des secrétaires, pas mal, qui aident à faire fonctionner ces services. Il y a des infirmières de santé au travail, il y a des ergonomes parfois, il y a des psychologues du travail et des techniciens ou ingénieurs préventeurs comme moi. Donc, alors je me suis demandé pourquoi parler de ça. Alors déjà, c'est pour insister, promouvoir la prévention. Alors, je ne sais pas pour les auditeurs, qu'est-ce que ça évoque pour eux, la prévention. On peut penser d'abord au domaine de la sécurité publique, avec ses travailleurs sociaux, mais aussi la police, la justice. Est-ce qu'on fait de la prévention dans ce domaine-là? On peut penser aussi à la santé publique, dernièrement, avec le coronavirus. Est-ce qu'il y a eu de la prévention efficace pour éviter que ça se passe, pour faire en sorte que ça se passe bien? Bon, si on pense au masque, la prévention, là, c'était pas terrible. On peut penser à l'environnement, l'écologie, le réchauffement climatique, le subir ou faire un peu plus de prévention. Bref, et on arrive au travail, au domaine du travail, où en ce moment, ben, on parle de. Il y a un débat sur les retraites. Et je pense qu'il est vain un petit peu, il serait même stupide de penser que de ne parler que d'âge de départ à la retraite sans parler de prévention. Donc, alors, la question que je me suis posée, c'est déjà par quoi commencer, de quoi parler, tellement le sujet il est vaste. Alors, je me suis dit, parce que c'était un souvenir un petit peu particulier pour moi, je me suis dit, pourquoi pas parler de télétravail. Alors, en même temps, déjà pour vous, les personnes que j'ai en face de moi, à quoi ça fait penser le télétravail, Camille ou d'autres ou
Alors moi, le télétravail, ça me fait penser au confinement, à la chaise de la cuisine qui fait mal au dos et à la connexion qui n'est pas forcément
tout à fait
au top.
Oui, c'est ça. Donc, alors le télétravail, déjà sous ce terme-là, ce n'est pas forcément être devant un ordinateur, mais maintenant, il y a des outils informatiques, des nouveaux outils qui permettent de collecter des données de l'extérieur. C'est pas forcément se retrouver devant un ordinateur, mais c'est vrai que c'est à ça effectivement que l'on pense. Et pour moi aussi, le souvenir que j'ai, c'est ça. C'est malgré des demandes depuis plusieurs années de pouvoir faire un peu de télétravail, parce que mon travail m'a mené à me déplacer beaucoup et à passer pas mal, être obligé de revenir au bureau pour rédiger des rapports, etc. Alors qu'il y avait sûrement d'autres façons de faire. Et puis, lorsque le coronavirus est arrivé, effectivement, de façon précipitée, avec des outils, des moyens plus ou moins adaptés, on s'est retrouvé un certain nombre devant notre ordinateur à la maison. Alors déjà, il faut quand même rappeler que sur alors 27 millions de salariés en France, il y en a 18 millions pour qui ce n'est pas possible, le télétravail. Donc, je suis désolé, on commence par ce thème, mais c'est vrai que ça ne peut pas concerner tout le monde. Il y a plein de gens qui ne pourront pas faire de télétravail. Alors, tant pis ou tant mieux pour eux, on peut en discuter. Je ne sais même pas si dans ces 27 millions, il y a les 5 millions de fonctionnaires. Moi, j'en faisais partie. Mais même dans la fonction publique, il y a énormément de métiers où le télétravail, non, c'est pas possible. Bon, mais tant pis, on commence à parler de ça. Alors, mon souvenir, comme Camille, effectivement, c'est de se retrouver devant son ordi. Alors, si on a moi, j'ai eu la chance d'avoir un directeur dynamique et qui connaissait l'outil informatique, on a eu accès à des outils plutôt efficaces assez rapidement, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, des profs, parce que pour continuer à animer, à suivre des élèves avec un outil qui ne fonctionne pas, je les plains. Beaucoup de gens les ont plaints. Après, on peut avoir. Alors, moi, j'ai plutôt fait partie des privilégiés, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à la maison sans enfant sur les genoux, si on peut dire, en bas âge, donc ce n'est pas le cas de tout le monde. On peut avoir ou pas un lieu réservé pour ça où on peut se concentrer, où on peut avoir, où on peut téléphoner sans bruit. On s'est même retrouvé à deux à la maison, donc avec chacun, chacun qui faisait du télétravail avec son employeur respectif. Donc tout le monde non plus n'a pas eu la chance d'avoir ces moyens-là. Effectivement, on a ce que j'ai entendu, ce qui revient souvent, c'est le mal de dos. Donc c'est vrai que lorsqu'on travaille pendant un certain nombre d'heures devant un ordinateur, il faut prendre le temps de bien s'installer. Et autant, généralement, on a des sièges plutôt adaptés au travail, réglables, s'ils sont réglés, parce que souvent on a des sièges réglables, mais qui ne sont pas réglés. À la maison, on a souvent, oui, ça se limite à une chaise, et donc à une hauteur qui est ce qu'elle est. On a plus ou moins de place pour mettre des papiers à côté de l'ordinateur. Si on a un ordinateur portable, on peut s'apercevoir assez rapidement que ce n'est pas adapté du tout pour y passer des heures, parce que ça, on a vite rapidement des problèmes de cervicale, surtout si on est assez grand, donc, et qu'on ne peut pas non plus baisser la chaise, etc. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien s'installer, sinon le télétravail sera synonyme de problèmes de santé au travail. On pourrait aussi parler d'éclairage. Pareil, dans des bureaux bien aménagés, on a généralement un éclairage adapté. À la maison, c'est pas évident. On peut aussi être mal éclairé, mal positionné par rapport à la fenêtre, par rapport à l'éclairage, par rapport à l'éclairage naturel. Donc il y a ça, il y a l'aspect ergonomique. La souris, on peut en avoir une plus ou moins adaptée. Alors maintenant, les modèles évoluent, on a plus ou moins de problèmes de canal carpien, là, tous ces gens qui se font opérer parce qu'ils ont ils abusent de la souris, des souris qui ne sont pas forcément ergonomiques. L'éclairage, j'en ai parlé, le siège, le mobilier aussi, on n'a pas forcément un mobilier à la bonne hauteur. Et on en arrive à des choses moins physiques, mais à des choses qui tiennent plus aux conditions de travail, liées vraiment à la particularité du télétravail qui peut amener à se retrouver assez isolé. Donc moi, de par mon travail de préventeur, de personnes, de professionnels qui étaient amenés à essayer de régler des problèmes, ce qui est remonté souvent, c'était le sentiment d'isolement des salariés, avec tout un lien social. Tout à l'heure, les collègues là dans le studio ont beaucoup parlé de lien social, alors que justement le télétravail peut être synonyme vraiment de perte de lien social. Donc si, là encore une fois, on a une hiérarchie, on a des collègues qui prennent le temps, qui prennent le temps d'avoir des moyens, des outils adaptés pour ça. On peut avoir des visioconférences suffisamment souvent, des contacts téléphoniques tout simplement, à condition encore une fois d'avoir une qualité de connexion suffisante, parce que là, peut-être que pendant le confinement, vous avez tous vu cette vidéo très, très marrante où on voit un monsieur qui est habillé dans la partie supérieure et qui a ses enfants autour de lui. Enfin, il y a des choses assez marrantes qui ont été faites pendant le confinement sur le télétravail. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, ce lien social, il faut vraiment être vigilant et faire en sorte que ce télétravail ne représente qu'une partie du temps de travail. Il faut absolument qu'il y ait des moments où on peut retrouver du lien social. Par exemple, le moment de la pause café, c'est important. C'est pas uniquement prendre un shoot de caféine, mais c'est vraiment échanger des informations. C'est la pause repas aussi, c'est important, ce que l'on peut perdre aussi avec le télétravail. Donc, les horaires de déconnexion, du coup, on a plus ce temps de trajet entre le domicile et le travail. Donc, chouette, mais en même temps, on se retrouve d'autant plus longtemps devant son outil de travail, devant un ordinateur. Et du coup, on peut ne pas voir le temps passer. Et ce temps de déconnexion, il s'étiole et on se retrouve à faire des journées de 8 heures, 10 heures. Et on ne s'aperçoit même pas qu'on est... On a fait que ça, quoi. On n'ose pas se déconnecter et dire non aux demandes que l'on a pu avoir. Donc, alors, je ne sais pas si tous ces souvenirs, ça évoque des choses plus précises pour vous. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu aussi la réaction des employeurs qui peuvent être contents de ça, parce que tout simplement, eh bien, ils ont à financer moins de coûts de carburant pour faire fonctionner des véhicules de service, de fonction. En en tant que préventeur aussi, il y a un effet positif. Je pense que c'est d'ailleurs c'est le peut-être le seul qui est vraiment sur lequel on peut pas dire enfin qui est flagrant, c'est qu'on diminue le risque routier. Aujourd'hui, si je vous demande à votre avis, quelle est la première cause d'accident mortel au travail? Quelle est la cause? Pourquoi on se tue au travail? Qu'est-ce qui fait que on peut se tuer au travail?
Les accidents de trajet.
Alors, les accidents de la route en général. Alors, il y a en partie effectivement les accidents de trajet, mais aussi les accidents en fonction. C'est-à-dire le commercial qui a une organisation pas forcément adaptée, qui est obligé de se dépêcher pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous. Et ça compte effectivement aussi les accidents de trajet. Alors que pour d'autres, ça va être, je ne sais pas moi, les chutes de hauteur depuis un toit. Mais non, effectivement, la première cause d'accident mortel au travail, c'est le risque routier, c'est les accidents de la route. Alors, pas forcément en voiture d'ailleurs, mais il y a aussi des gens qui prennent la moto, des scooters, en région parisienne, beaucoup de scooters, le vélo, voilà. Donc, alors, effectivement, du coup, le télétravail, c'est intéressant pour ça. On diminue le risque routier. Après, les autres avantages dont on entend parler, apparemment, avec un petit peu de recul maintenant, c'est beaucoup moins flagrant. Alors, des employeurs seront contents parce qu'ils ne vont pas être obligés d'aménager autant de bureaux, de surfaces de bureaux permanents pour des salariés. De plus en plus, on voit s'installer des espaces de travail partagés pour des salariés, d'ailleurs, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Bon, il y a des communes, d'ailleurs, qui investissent pour ce genre d'espace, pourquoi pas. Mais là, encore une fois, pas forcément au profit du lien social. En étant un petit peu cynique, pour un employeur, ça peut être une aubaine de voir moins de demandes collectives à gérer sur les conditions de travail, parce que chacun se retrouve un peu isolé et ce n'est pas évident tout seul de se faire entendre. Alors, en disant ça, on peut dire, c'est vrai, tout seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Généralement. Donc voilà, les demandes collectives, il peut y en avoir moins et se dissoudre ce lien social, ça peut être intéressant pour un employeur qui n'a pas compris que qualité de vie au travail, ça doit aussi améliorer la qualité du travail. Moi, avec l'expérience, j'en suis convaincu, mais pour pas mal d'employeurs, travailler sur les conditions de travail, c'est un peu du confort superflu, ça n'a pas forcément un lien avec la qualité du travail. Et aussi, sur quoi il faut être vigilant, c'est j'aborderai ça dans une chronique suivante, c'est l'entretien physique. Donc moi, je me suis retrouvé parfois un peu surpris, j'ose le dire, en pyjama, encore déjà au travail, devant l'écran. S'il n'y a pas de visioconférence, on se dit, on va s'habiller plus tard.
Oui, et puis c'est surtout qu'on peut couper la caméra pour...
Voilà. Heureusement, on n'a pas toujours la caméra, effectivement, en fonction. Mais on peut se dire aussi, ce qu'on ne peut pas faire au boulot, même si des entreprises l'organisent, on peut se faire un petit peu d'entretien physique, surtout en période de confinement. On était en manque parfois de faire du vélo, de la marche à l'extérieur avec ces fichus périmètres là qu'il fallait respecter. Bon, on se prend un quart d'heure pour faire des abdos un petit peu, de se bouger pour limiter le mal de dos aussi. Voilà, tout simplement. Voilà, alors, et j'oublie parce que j'ai à côté de moi une personne qui a sûrement entendu parler de ces problèmes-là. Quand on travaille à la maison, il faut chauffer davantage, plus longtemps, alors qu'à la limite, en partant de chez soi, on baisse le thermostat et puis on le remet plus tard en revenant. L'électricité, on la fait fonctionner plus longtemps. Et qui c'est qui paye tout ça? Donc ça généralement, ça fait des débats intéressants entre employeurs et salariés. Et aujourd'hui, je crains que même si un texte est passé, mais surtout avec des recommandations, enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire pour que le salarié n'y perde pas trop, justement, par ses coûts supérieurs d'énergie, tout simplement. Donc, en été ou en hiver, on verra d'ailleurs cet hiver ce que signifie 19 degrés quand il faut travailler à la maison. Voilà, le télétravail, c'était le premier sujet que je lance, et pour les prochaines chroniques, il y a bien d'autres sujets à aborder.
Merci Patrick, avec ta chronique, ça nous a rappelé plein de souvenirs et c'était hyper pertinent, notamment les coûts de l'énergie qui vont être un petit peu élevés, je pense, cet hiver, et du coup les coûts qui vont être répercutés sur les factures des employés et non pas pour l'employeur.
Tout à fait. Alors, pour la suite, effectivement, j'ai mis sur le côté un certain nombre de sujets que je peux développer un petit peu. Alors, quand on parle de prévention, il faut expliquer qu'il y a la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Alors, ça évoque peut-être pas grand-chose pour les auditeurs, quoique on a beaucoup parlé de vaccins, on parle des hôpitaux, on parle des soins. Dans le domaine du travail, trop souvent, on parle d'abord des équipements de protection individuelle. Donc ça, c'est bien, il vaut mieux qu'il y en ait, mais ce n'est pas de la prévention primaire, c'est-à-dire s'intéresser aux causes. Et ça, il y a de quoi dire sur le sujet. Ce que l'on a évoqué tout à l'heure un petit peu, c'est aussi le mal de dos. Donc là, ça permettra de développer la question de l'entretien physique au travail, la sédentarité, le fait que des personnes ne sont pas amenées à avoir une activité très physique ou sont devant leur écran. Et donc, tous les dégâts que peuvent faire aujourd'hui le manque d'entretien physique, alors dans le cadre du travail ou en dehors. Ce que je développerai aussi une prochaine fois, c'est les risques psychosociaux. Alors, plutôt dire de façon un peu moins négative le bien-être ou le mal-être au travail, trop souvent confondu avec le burn-out. Le burn-out, c'est quelque chose de très particulier, heureusement très rare. Par contre, les raisons de ne pas être très heureux au travail, il y en a beaucoup plus et beaucoup plus souvent, hélas. Je parlerai aussi d'addiction au travail. On a tendance à... et de produits chimiques. Je sais que Karina était sensible sur le sujet, les cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, enfin bref, tous les produits chimiques que l'on peut utiliser beaucoup dans certains métiers, auraient tendance à faire passer par en dessous toutes les addictions qui existent toujours, notamment le tabac. Le tabac qui continue, je souris, mais non, c'est pas du tout drôle, ça continue à faire à peu près 75 000 morts par an, alors que les CMR, les produits chimiques, heureusement, ne font pas autant de morts. On pourra aussi parler de conception sur les lieux de travail, avec notamment le rôle essentiel des architectes, mais très souvent, justement, les problèmes de mauvaise conception des lieux de travail, avec toutes les répercussions ensuite sur les petites mains qui vont être chargées de la maintenance et du nettoyage, de l'entretien des lieux de travail. Donc voilà, ce sont des sujets que l'on pourra... développer avec là aussi, il y a des choses nouvelles qui arrivent, des nouvelles technologies comme les exosquelettes qui peuvent se mettre en place dans certains métiers qui sont censés régler les problèmes de mal de dos ou d'usure articulaire, les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Enfin bref, le sujet de santé au travail ne manque pas. J'aborderai enfin aussi, peut-être même avant, en premier, l'organisation de tout ça, qui fait quoi en France et où en est un petit peu la réglementation, vers qui se tourner, avec notamment les questions de dialogue social. Voilà, j'allais oublier ça. Essentiel, aujourd'hui, dans la fonction publique, mais ailleurs, il y a des élections qui sont en train de s'organiser ou qui se sont déjà organisées pour faire en sorte que les employeurs et les salariés puissent se parler et se comprendre, si possible, avec une formation pour tout le monde, pour parler de conditions de travail. Donc le dialogue social, il est essentiel, et faire en sorte que les revendications puissent déboucher sur des débats utiles et sur des améliorations des conditions de travail, donc des améliorations sur la qualité de ce travail. Voilà, donc aux prochaines fois, et j'espère que je vous ai donné envie que l'on se retrouve.
Merci beaucoup Patrick.
Merci.
Et à la prochaine pour une prochaine chronique.
Tout à fait. Dans une semaine, un mois, on va en rediscuter.
On en rediscutera, mais moi je veux savoir la suite.
Ok.
Et toujours demain, direction Chabeuil au tiers-lieu Larroux pour des vacances créatives où Grégoire fera fabriquer aux enfants un oscilloscope. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Alors, Patrick fait un geste.
J'ai utilisé dans mes études il y a longtemps, mais j'aurais du mal à l'expliquer. Ça fait une aiguille qui varie, voilà.
Ouais, en gros, c'est ça. Donc, j'ai regardé la définition, parce que, voilà, c'est toujours bien d'être curieux. Alors, c'est un appareil qui enregistre les variations dans le temps d'une grandeur physique. Et donc, par exemple, c'est un appareil qui enregistre les variations de la tension électrique. Donc voilà, donc ça c'est un atelier qui sera proposé aux enfants et l'après-midi, ils pourront découvrir l'informatique ludique avec Aliénor. Voilà, c'est des ateliers qui peuvent être super enrichissants pour les enfants. Les activités durent de 10h à 12h30 le matin Et de 14h à 16h30 l'après-midi, les tarifs, c'est entre 15 et 25 euros. Et vous retrouvez toutes les infos sur tierslieularoue.fr. Et alors sinon, j'ai donné beaucoup de bons plans pour les enfants, parce que c'est les vacances, mais je n'ai pas oublié les adultes. Et avec une thématique on ne peut plus sérieuse, on va parler du Qatar et de la face cachée de la Coupe du Monde de football 2022. Donc c'est à l'occasion de la parution de « Au désert ». Donc c'est le dernier livre de Frédéric Leclou. Et donc l'auteur rencontrera autour d'une table ronde au Luxe en ville. Il rencontrera Pierre Chex, qui est économiste du sport, et Sylvie Raspailler, qui est membre du conseil d'administration d'Amnesty International France. Et donc on parlera de la Coupe du Monde de football qui s'apprête à démarrer sous les feux des projecteurs et des critiques. Parce que je crois qu'en matière de respect de l'environnement et des droits humains, semble-t-il que le Qatar ne remporte pas la première place. Donc rendez-vous demain à 18h30 au Luxe. Ainsi se termine cette locale du mercredi 26 octobre 2022. Restez à l'écoute de Radio BLV. Merci à Clément à la technique.
Merci à toi.
Et merci à mes invités d'avoir été présents. N'oubliez pas que si vous avez aimé cette émission, vous pourrez la retrouver ainsi que toutes les autres sur notre site internet www.radioblv.com. Vous pouvez aussi suivre nos actualités et nous retrouver sur Facebook et sur Instagram en tapant Radio BLV. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à prendre votre adhésion Radio BLV. Ça coûte 5 euros. Vous pouvez le faire sur notre site radioblv.com et ça nous aide beaucoup. Merci pour votre écoute. Bonne journée et à bientôt.